Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 16 de la saison 2 sur le thème « Habiter célib ». Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Charlène. Bonjour Charlène.
Bonjour Marie.
Comment te présentes-tu et te définis-tu, si c'est le cas ?
Alors, je m'appelle Charlène. J'habite à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. J'ai 27 ans. Je travaille en tant qu'urbaniste pour un parc naturel à la préservation des terres agricoles et naturelles, et donc pour la promotion d'un urbanisme plus durable et plus participatif. Et je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, blanche, queer et écoféministe.
Merci beaucoup Charlène. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois et aujourd'hui, on va discuter du célibat et de l'habitat. Où est-ce qu'on vit quand on est célibataire? Et si on n'a pas envie de vivre seul, on fait comment? Au niveau financier, comment on s'en sort? Est-ce que l'habitat communautaire peut nous sauver? On va se poser toutes ces questions et bien d'autres avec Charlène, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, les questions traditionnelles de Sologamy. Charlène, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ?
Je dirais que ça veut dire être libre, indépendante et autonome. Donc ça veut dire, ça peut vouloir dire relationner avec des personnes et avoir des relations, qu'elles soient amoureuses, sexuelles ou autres. Mais vraiment, ouais, pour moi, c'est garder mon autonomie. Et donc effectivement, le fait d'habiter seule, ça en fait partie. Et c'est ça inclut le fait de décider de où je vis, de comment je vis, de quand est-ce que je décide de partir en vacances, de ce que je décide de manger, etc.
Et est-ce que tu es célibataire en ce moment? Je me rappelle plus si tu as dit ça tout à l'heure.
Non, non, je l'ai pas encore dit. Donc oui, je suis célibataire en ce moment. Et en fait, je considère que j'ai toujours été célibataire dans ma vie. ce qui a changé, enfin ce qui est en train de changer depuis ces dernières années, c'est plus que, pas vraiment que je le revendique, mais en tous les cas que ça devient, je pense, de plus en plus un célibat politique au fur et à mesure que mon féminisme et mon militantisme se construisent aussi. Mais dans les faits, les relations que j'ai eues ont jamais été des relations de couple exclusives, donc je considère que j'ai toujours été célibataire.
Trop bien. Du coup, la troisième question, relis-tu bonheur et couple ?
Bah non, parce que je suis très heureuse et voilà, et j'ai eu plein de d'expériences qui m'ont comblée et qui m'ont rendue très heureuse dans ma vie sans avoir d'expérience de couple. Et puis à côté de ça, j'ai aussi des référentiels, que ce soit dans ma famille, mes grands-parents, mes parents, qui pour le coup, pour moi, ne reflètent pas vraiment des idéaux de bonheur, alors que pour le coup, c'est des personnes qui sont en couple et qui l'ont été toute leur vie, pour l'exemple de mes grands-parents. Donc non, pas vraiment.
Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens posée, je me sens en sécurité d'un point de vue de santé mentale. Voilà.
Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas du tout ?
C'est une bonne question, mais alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis indépendante financièrement de quiconque et notamment de mes parents. Donc ça, je suis fière et contente de ça. Et à la fois, c'est évident que, par exemple, le prix de mon loyer, c'est un gros, enfin, pèse lourd dans mon budget mensuel. Et donc, c'est sûr que c'est un choix d'assumer seul le loyer, mais ça pèse dans ma situation financière, oui.
Comment tu vis ta sexualité en célibataire ?
Du coup, comme j'ai toujours été célibataire, dans mon histoire, j'ai de toute façon très tôt et pendant très longtemps eu une sexualité avec moi-même, pardon, avant d'en avoir une avec d'autres personnes. Du coup, ça a toujours été quelque chose plutôt de très épanouissant que quelque chose que j'ai vécu comme une sorte de remplacement d'une relation avec quelqu'un. Je sais pas si c'est clair, mais donc ma sexualité avec moi-même, je continue de l'explorer comme je le fais depuis mes 10 ans ou avant, et donc ça je la vis bien. Et au-delà de ça, ma sexualité avec d'autres personnes, elle est importante pour moi aussi, mais je dirais que pour le coup, ça, c'est pas simplement, enfin, ce que j'aime quand j'ai des relations sexuelles avec d'autres personnes, c'est que ce soit pour le coup pas uniquement des relations sexuelles aussi. Et du coup, c'est plus le fait de découvrir d'autres personnes avec qui je peux relationner, quel que soit le type de relation, mais voilà.
Est-ce que tu es sensible au regard des autres vis-à-vis de ton célibat ?
Je pense de moins en moins. Ce qui est sûr, c'est que on va dire que il y a des milieux qui sont plus ou moins safe sur le célibat, comme sur mon orientation sexuelle ou comme sur le féminisme, tu vois. Donc c'est évident que, enfin c'est évident, c'est pas évident, mais c'est sûr que dans mon, par exemple dans mon milieu familial, c'est pas un milieu très safe de toute façon sur plein de sujets, et donc sur mon célibat ça l'est pas, et même si je travaille dessus et je pense que j'arrive à m'en détacher de plus en plus, bah, le regard de ma famille continue à peser sur moi. Après, dans les autres milieux dans lesquels j'évolue, c'est des milieux qui, globalement, pour le coup, sont plus safe, sont plus bienveillants. Donc ça me permet aussi de prendre de l'assurance, finalement, et d'avoir moins peur du regard des autres.
Merci. Maintenant, on va passer au thème. Hein. Habiter solo, célibat et habitat, comment on fait? Alors, Charlène, pourquoi t'as choisi ce thème?
C'est un thème qui me parle particulièrement, je pense, pour plusieurs raisons, à la fois parce que ça m'intéresse d'un point de vue très personnel, parce que actuellement je vis seule dans mon appartement, mais je me pose plein de questions sur les formes d'habitat dans lesquelles j'aimerais vivre dans quelques années ou comme ça. Et puis aussi parce que d'un point de vue plus professionnel, je travaille sur les questions d'architecture, je travaille sur les questions d'urbanisme, je travaille sur la façon de comment se fabrique justement une ville et des lieux de vie. Donc ça me parle aussi, et tout ce qui va être l'habitat participatif, l'habitat intergénérationnel, ça c'est des choses que je traite aussi au quotidien, plus avec ma casquette d'urbaniste, donc voilà.
Trop intéressant, je suis trop contente de faire cet épisode. Je vais te demander où tu vis, mais tu as déjà commencé à répondre, et pour donner quelques indications... Enfin déjà, non, vas-y, après je parlerai. Où est-ce que tu vis exactement? Parce que tu as dit que tu vivais à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Est-ce que tu peux expliquer dans quel genre d'habitat? Où est-ce que c'est Saint-Rémy? Voilà. Et avec qui tu vis?
Ouais, alors... Donc Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est le terminus du RERB. Donc c'est à la fois une petite ville et pas un village, mais on est quand même aux portes de vraiment des Yvelines rurales. Donc c'est la station de RER où on aperçoit des vaches depuis le quai du RER. Moi, j'habite justement juste à côté du RER, donc vraiment dans la partie historique de la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses, juste à côté de l'église. J'habite dans un immeuble qui est très ancien, qui date du XVIIIe siècle et qui a été divisé en appartements. Et donc, moi, j'habite toute seule dans un studio. Et dans cet immeuble, on est 4 personnes à vivre chacune seule dans nos appartements respectifs. Donc voilà, donc j'habite seule, mais je vois régulièrement mes voisins, voisines.
D'accord, c'est des personnes de tout genre, c'est pas que des femmes.
Non, c'est pas que des femmes.
Ok. Du coup, moi, je dois aussi parler de moi dans Sologamy, surtout sur ce thème qui me torture en ce moment. C'est vraiment, enfin, trop bizarre et une coïncidence, hein, n'est-ce pas? J'habite à quelques kilomètres de chez Charlène, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. J'habite chez mes parents à Toussus-le-Noble. C'est un village sur le plateau, donc Saint-Rémy, c'est plutôt dans la vallée de Chevreuse. Et donc, j'habite à quelques kilomètres sur le plateau de Saclay, dans ce village, dans cette grande maison, avec mes deux parents, donc mon père et ma mère. Donc, je ne vis pas seule. Et c'est une maison qui a 9 ans, donc une maison neuve, type pavillon, enfin un type Desperate Housewives, genre les maisons énormes de Bourges, avec un grand jardin, etc. Je dirai après comment ça se passe. Charlène, est-ce que ça te convient de vivre seule et ici, par exemple?
Oui, alors ce qui me convient particulièrement, c'est d'avoir un vrai lieu à moi, donc en l'occurrence c'est mon studio, et de vraiment pouvoir, quel que soit le moment, rentrer chez moi, fermer ma porte et me dire je suis chez moi, je suis tranquille, je fais ce que je veux, voilà. Donc ça me convient. Après, ce qui me convient aussi dans la configuration actuelle, c'est de savoir que je suis jamais non plus finalement, on va dire, livrée à moi-même, et que je peux aller toquer à la porte de mes voisins voisines quand je veux. On a une relation finalement assez proche. J'avais une relation très très proche avec ma voisine précédente qui habitait au-dessus de chez moi. Et qui avait un petit garçon et dont je m'occupais souvent du petit garçon. Donc, on allait beaucoup l'une chez l'autre et voilà, c'était un peu nos deux appartements sont l'un au-dessus de l'autre, mais on y allait en chaussons et c'était comme si on était dans une maison avec chacune un étage de la maison, quoi. Et donc, elle est partie, elle a déménagé dans la Creuse, mais je m'entends bien avec la personne qui l'a remplacée et globalement avec toutes les personnes qui vivent dans l'immeuble. On a une petite cour commune, donc on se voit pas, enfin, on passe pas mal de temps ensemble, les uns chez les autres et, ou simplement dans la cour à faire un peu de jardinage ou à prendre des apéros. Donc, je pense que c'est cet équilibre-là, en fait, qui me correspond bien et qui me va bien. C'est d'avoir l'appartement à moi, mais quand même de pouvoir régulièrement avoir un vrai lien social et une vraie relation avec mes voisines, voisins. Voilà.
Et tu vois aucun inconvénient à part le prix, peut-être ? Pas d'inconvénient ?
Ben, effectivement, le prix effectivement pèse un petit peu lourd, comme je disais tout à l'heure, donc c'en est un. Après, non, actuellement, en tous les cas, ça me correspond bien et ça correspond bien au mode de vie que j'ai, au niveau aussi de sa localisation. C'est que c'est un appartement qui est proche de mon lieu de travail et en même temps proche du RER et qui me permet du coup d'aller à Paris régulièrement. Donc, pour l'instant, en tous les cas, dans les mois ou années à venir, ça me correspond bien.
Trop bien. Je suis trop jalouse. Moi, non, ça me convient pas. Je suis revenue vivre chez mes parents après 9 ans à vivre seule ou avec d'autres gens. Je ne sais pas pourquoi, je savais que ça allait se passer mal, mais j'avais oublié à quel point c'était des personnes toxiques et violentes. Parce que souvent, les gens me disent, mais Marie, en même temps, personne ne revient vivre chez ses parents, ça se passe toujours mal. Et je trouve ça absurde comme principe. Pourquoi ça se passerait forcément mal? Je suis sûre qu'il y a des parents bienveillants avec leurs enfants ou absents ou je ne sais quoi. Et en plus, d'avoir cette grande maison qu'ils ont construite en 2012, donc l'année où je suis partie. Donc la chambre qu'ils ont construite pour moi, j'ai même pas pu l'avoir, en profiter plus de 6 mois. Après, je suis partie habiter à aucun coin de la France et du monde. Et mes parents me disaient toujours, c'est quand que tu reviens, on a fait cette grande chambre pour toi, tu n'es jamais là. Et donc, toute l'année, ils chauffent la maison qui fait 200 mètres carrés. Il y a l'eau chaude, l'électricité, Internet, tout le confort. C'est une maison passive, enfin pas passive, mais presque. Donc, avec le chauffage au sol, c'est hyper confortable. Et il y a un grand jardin, et il y a une piscine, et il y a plein de voitures, et j'ai mon vélo électrique, et il y a un garage, et je fais mon potager. Et en fait, de façon pratique, il y a tous les avantages, puisque c'est aussi pas loin de Paris, il y a les transports, il y a mon vélo, il y a les médiathèques autour, il y a tout le tissu associatif, il y a mes parents que j'aime, quoi, il y a mes frères et sœurs qui reviennent de temps en temps. Enfin, vraiment, sur le papier, c'est tout bénef parce que je ne paye rien et que comme moi, l'été, je marche. J'ai juste besoin d'un abri pour l'hiver, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, je vais les supporter l'hiver et puis, d'un point de vue écologique, je trouve ça mieux d'être là plutôt que de consommer ailleurs. Et en fait, c'est l'enfer puisque mes parents sont toxiques et violents et que ma mère notamment passe son temps, mes deux parents entre elles eux, s'engueulent et se gueulent dessus, se crient dessus, s'insultent toute la journée. Et ma mère avec moi passe son temps à me dire que je suis nulle, elle me critique, elle me rabaisse. Si je prends une fourchette dans la cuisine, j'exagère mais à peine, elle me demande de lui, elle m'engueule en disant que je devrais demander l'autorisation de prendre une fourchette. Donc je perds toute confiance en moi parce qu'en fait elle passe son temps à me dire mais c'est quand que tu te mets en couple, c'est quand que tu trouves un vrai appart, c'est quand que tu trouves un vrai travail. Et en même temps, après, quand je suis pas là, il faut que je revienne à la maison. Enfin, c'est absurde. Donc j'ai l'impression d'être une merde. Alors qu'en fait, je peux travailler sur mes projets dans une autre chambre. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Et donc, c'est vraiment pratique. Et en même temps, j'ai pas envie de vivre seule. Donc, on va en parler ensemble. Ensuite, de comment on fait si on n'a pas envie de vivre seul. Alors financièrement, du coup, je reviens là-dessus parce que c'est important pour les personnes. Et puis tu l'as dit, hein, le prix du loyer ou l'achat ou comment on fait financièrement. Moi, du coup, j'ai pas de frais en ce moment, mais ça se passe pas bien. Combien ça représente dans ton budget ton loyer? Comment tu fais en fait financièrement, et est-ce que ça te semble pérenne pour les années suivantes?
Alors actuellement, mon loyer, mon loyer plus les charges, c'est une bonne grosse moitié de mon salaire en gros. Donc c'est sûr que c'est énorme et que heureusement que à côté je suis quand même plutôt économe, parce que sinon ce serait enfin il y a déjà des mois où il suffit que j'ai des imprévus où c'est quand même pas voilà. je roule pas non plus dans le luxe quoi, mais je dirais que en fait actuellement, c'est possible parce que je m'en sors quand même et parce que ça me correspond bien. Après, sur le plus long terme, je sais que peut-être que ça vaudrait le coup et que surtout ça me correspondrait mieux de déménager, de peut-être partir de la région parisienne et du coup de me retrouver avec des loyers qui seront beaucoup, beaucoup moins élevés. Et aussi de réfléchir vraiment à des formes pour le coup d'habitat plus partagée et plus participative, qui du coup aurait tout un tas d'avantages, mais pour répondre à ta question, aurait notamment un avantage financier. Et en fait, moi, ma première expérience d'habiter seule, ça a été un petit peu ce principe-là aussi, c'est que en fait, quand je suis partie de chez mes parents, j'avais 21 ans, pour faire mon master à Paris. Et du coup, donc c'était la première fois que je quittais chez mes parents. Et il fallait que je trouve un habitat, un endroit où habiter. Et à la fois, fallait que je trouve quelque chose de pas trop cher, parce que, en plus, mes parents me payaient déjà mes années de master, parce que mon master était payant. Et voilà, ils n'avaient pas l'argent pour me payer en plus mon loyer. Et j'avais pas beaucoup de sous de côté, à part les petits jobs d'été que j'avais pu faire les années précédentes. C'est comme ça que j'ai trouvé, que j'ai eu donc une première expérience un petit peu d'habitat différent, où en fait j'ai habité donc dans un petit studio à l'intérieur d'une maison. Et en fait, à la place de payer un loyer, je m'occupais des enfants des propriétaires de la maison. Donc c'était ce qu'on peut appeler une sorte de logement contre service. Il se trouve que dans mon cas, ça s'est particulièrement bien passé, et surtout ça a été en fait une super rencontre. À l'origine, j'y allais pour quelques mois en me disant peut-être qu'après je trouverais une coloc ou voilà. Et en fait, j'y suis restée 3 ans. Et quand j'en suis partie, je suis partie en larmes parce que j'étais arrivée, il y avait 2 enfants. Pendant les 3 années, il y a eu une 3e petite qui est née, que j'ai vue naître et dont je me suis occupée pendant toute sa première année. Donc c'était hyper émouvant, et ça a été vraiment une relation bien au-delà de juste un échange de services pour le coup. Mais ce qui était intéressant sur ce modèle-là, c'était vraiment, finalement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là où je m'y retrouvais, c'était que j'avais mon petit studio. Alors pour le coup, c'était tout petit, ça faisait 12 mètres carrés, c'était vraiment une toute petite pièce, mais où j'avais quand même une petite cuisine, une petite salle de bain. Et donc, où j'étais vraiment chez moi, je faisais venir les personnes que je voulais, quand je fermais la porte, j'étais chez moi. Et en fait, après, on avait un espace qu'on partageait avec la machine à laver, une imprimante, enfin des choses qu'on partageait. Et ensuite, je pouvais aller dans leur maison, soit parce qu'on dînait ensemble parfois, ils avaient un jardin, donc je pouvais aussi profiter du jardin, et puis parce que je m'occupais des enfants. Et donc ça m'a permis de faire mes 2 années d'études, et puis même une année après où je travaillais sans payer de loyer, et avec cette comment dire ce côté aussi très chaleureux qui faisait que j'étais pas non plus toute seule quand j'étais en période d'examen ou quoi, où j'étais stressée et où je pense que ça aurait pu être dur aussi d'être, de vivre seule dans un petit studio parisien, voilà, et où là, bah, les soirées avant mes examens, j'étais entre guillemets en famille au coin du feu avec les enfants et les parents, quoi. Donc voilà. Donc en résumé, je dirais que finalement, enfin cet exemple-là, en tous les cas, ça m'a montré que le point de départ de vouloir tenter cette expérience-là, il était financier. Il était de dire, OK, j'ai pas les sous pour me payer de toute façon un studio en plein Paris, donc il va falloir que je fasse autrement. Quelles sont les possibilités? Et finalement, ça a débouché sur, voilà, sur autre chose et sur quelque chose de vraiment qualitatif sur la relation qui s'est créée. Du coup, c'est un peu ça mon idéal, en gros. C'est d'essayer de réfléchir à des formes d'habitat qui, à la fois, créer du lien et en même temps permettre aussi de faire des économies parce que voilà.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Donc, on en arrive à ma partie préférée. Est-ce que tu rêves de vivre en communauté? Avec qui exactement? Tu vas me dire que tu as déjà commencé à répondre. Dans quel environnement? Comment est-ce que tu organises tes recherches si tu as commencé? Parce que, moi, je vais commencer. Moi, j'ai vraiment besoin de ce lien avec la nature dont t'as pas trop parlé, mais t'en parleras peut-être après. D'avoir un jardin ou un terrain, de pouvoir faire un potager, de pouvoir sortir, avoir la nature. Et donc ça, il n'y a pas dans les appartements, il n'y a pas en ville, il n'y a pas en coloc. Enfin voilà, c'est assez difficile d'avoir ça. Et en même temps, si on s'éloigne, si on va dans une autre région ou hors des villes, si on veut pas de voiture, on va peut-être en parler aussi, si on veut pas de voiture, ça crée d'autres contraintes. Et donc moi, je me suis dit, je vais acheter ma tiny house. Donc si les gens savent pas ce que c'est une tiny house, c'est une sorte de roulotte améliorée, donc qui peut se déplacer avec un poids lourd. Enfin, c'est quand même pas facile à déplacer de région en région. Mais théoriquement, c'est une mini maison comme il y a un mobil-home en fait, mais un peu plus écolo, un peu plus mieux isolé par exemple, en bois qu'on peut déplacer. Et l'avantage, c'est d'avoir un mini espace de, je sais pas, 15 mètres carrés, enfin voilà, avec un étage où en bas, c'est la cuisine, la salle de bain, et en haut, c'est les chambres ou la chambre. Et donc moi, je voudrais vivre en communauté, en mode ferme, ou en mode chacun a son habitat léger ou habitat normal, mais et j'en ai vu, hein, et on partage le terrain, ou on partage des espaces communs, mais vraiment, je suis hyper attachée, comme tu disais tout à l'heure, à son espace à soi, sa chambre à soi, etc. Et moi, j'ai besoin de gérer mon ménage, de gérer mes tâches domestiques, j'ai pas envie d'en faire pour d'autres, et j'ai pas envie que d'autres les fassent pour moi, et j'ai besoin d'être seule, tout simplement. Donc, le problème de quand on vit en communauté, c'est effectivement le cliché qu'il y a, c'est de dire oui, mais au bout d'un moment on va s'engueuler, va y avoir des tensions, donc c'est mieux si on a notre espace privé, parce que du coup il y a peut-être moins de risques de tensions, je sais pas. Et donc je ne veux pas vivre trop loin d'une ville non plus, parce que je n'ai pas de voiture et je ne veux pas de voiture, et j'ai un vélo électrique et toi aussi tu as un vélo électrique, donc voilà, il faut quand même habiter près des villes, et il faut avoir un terrain, il faut avoir une communauté, et il faut que ce soit autorisé au tiny house et machin, et il faut de l'argent pour tout ça. Donc toi, Charlène, je redis les questions: est-ce que tu rêves de vivre en communauté, avec qui exactement, dans quel environnement, et comment est-ce que tu organises tes recherches si tu as commencé?
Alors, Déjà, peut-être juste pour répondre sur actuellement, parce qu'effectivement, moi aussi, pour moi, le lien avec la nature est important. Et du coup, même si dans mon appartement actuel et dans notre petite cour intérieure, j'ai pas forcément de vrai jardin, en fait, je suis dans deux assos qui ont mis en place un potager et un verger participatif. Donc, en fait, j'ai quand même ce lien-là et j'y vais une à deux fois par semaine, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui fait que ça contribue aussi à mon équilibre et au fait que ça me manque pas trop, même si c'est pas directement près de mon habitat, c'est pas très loin. Sinon, j'ai eu une vraie expérience sur vraiment un lieu comme ça d'habitat partagé en faisant 4 semaines de woofing il y a 1 an et demi. C'était dans le sud, c'était dans l'Hérault, près de l'Odève. Et donc j'y allais notamment parce que il y avait un des sujets qui m'intéressait, c'était vraiment de voir l'expérience de l'habitat participatif partagé. Donc là, en l'occurrence, c'est un lieu sur lequel c'est un projet qui est ancien, qui a une dizaine d'années et qui est en train petit à petit de vraiment se voir le jour et se sortir de terre. Donc c'est un projet sur lequel il y a des maisons qui sont individuelles avec des lieux qui sont collectifs, donc notamment une grande maison et une grande cuisine, salle de bain et des chambres même collectives, un grand espace donc potager, poulailler collectif, etc. Et il y a aussi des personnes qui pour l'instant vivent en yourte parce que soit elles s'installent là directement dans leur yourte, soit potentiellement elles ont un projet de maison mais qui est pas encore abouti, donc pour l'instant elles vivent en yourte ou en caravane ou voilà. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup intéressée et beaucoup plu. Et parce que pour le coup, même moi, en tant que woofeuse, je m'y retrouvais assez bien parce que j'avais vraiment une vraie chambre à moi, qui avait un vrai petit espace à moi. Et c'est vrai que pendant un mois, c'était hyper appréciable par rapport aux expériences que j'ai pu avoir dans des auberges de jeunesse ou quoi, quand t'es tout le temps en dortoir. Et là, c'était vraiment très appréciable. Et pour le coup, j'avais une vraie intimité. Et surtout, voilà, le retour que j'avais en discutant avec les personnes qui vivaient là-bas, c'était effectivement l'équilibre entre, toujours pareil, le fait que chaque personne avait quand même sa petite maison, avec un effort fait sur le fait que ce soit des maisons qui consomment peu d'espace aussi, donc plutôt un habitat plutôt assez groupé, assez dense finalement, que ce soit pour des critères énergétiques ou des critères de consommation d'espace, qui soient donc plutôt des maisons mitoyennes, des formes architecturales assez denses, de longues ou de corps un petit peu comme les anciens corps de ferme finalement, ce qui permet donc de faire des économies d'énergie et de consommer, d'artificialiser moins de sol et donc d'avoir plus d'espace pour les espaces laissés naturels ou éventuellement cultivés pour du maraîchage ou pour y mettre un poulailler, etc. Et donc ce qui était intéressant, donc j'ai fait une grande parenthèse, mais c'était le fait que les personnes me disaient, nous là où on est content, c'est que on a vraiment notre petit chez nous, notre espace à nous, si on veut, s'il y a un week-end où on a juste envie d'être entre nous, c'est chouette. Et en même temps, il y a la maison commune, il y a toutes les activités collectives. Et pendant que j'y étais, c'était tous les soirs qu'il y avait la récolte des légumes et du coup l'atelier conserve de ratatouille pour tout l'hiver, pour tout le hameau, parce que donc ça c'était hyper chouette et c'était l'exemple même de ok, on fait des tâches collectives. Et ce qui est intéressant aussi pour le coup sur plutôt tout ce qui va être on va dire gestion des conflits, c'est que c'était quelque chose qu'ils avaient pas mal interrogé aussi. En fait, je suis arrivée, il y a un four à pain dans cet éco-hameau avec une boulangère qui du coup fait son pain et le vend au marché et le fait pour les habitantes et habitants du hameau et le vend au marché. Et en fait, il y avait eu un départ d'incendie vraiment le quelques jours avant que j'arrive. Et donc, ça avait vraiment provoqué un stress, quoi, une grosse angoisse pour les personnes parce qu'en plus, c'est des maisons qui sont quasiment 100% en bois. Donc, il y avait un vrai risque, une vraie peur. Et du coup, donc, j'ai pu assister à des ateliers, des réunions pour vraiment permettre à chacun de s'exprimer sur les émotions que ça avait pu susciter, cette crainte de l'incendie et cette crainte de voir potentiellement le village ravagé par le feu. Et que chacun puisse s'exprimer, puisse en parler et réfléchir ensemble aux solutions très pratico-pratiques aussi à mettre en place, mais en tous les cas aussi à cette question de prendre en compte les émotions de chacun. Et donc, c'était un peu long, mais c'était pour simplement dire que cette expérience-là, ça a été un peu le début de mes recherches pour effectivement réfléchir aux formes d'habitat participatif partagé dans lesquelles j'avais envie de potentiellement vivre plus tard. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un projet sur du un peu long terme parce que j'ai envie de prendre le temps d'y réfléchir aussi, d'avoir d'autres expériences de woofing ou d'autres expériences avant de concrétiser un peu mon projet. Mais c'est vraiment, on va dire que mon projet idéal, ce serait effectivement de plutôt partir. Je sais pas où exactement, mais dans le quart sud-ouest de la France, on va dire. Si possible, effectivement, de pas être un peu ce que tu disais tout à l'heure, de pas être trop loin d'une grande ville. L'avantage avec l'ODEV, c'était qu'on est à 40 minutes de Montpellier en bus, donc c'est finalement très accessible. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que moi aussi, actuellement, j'ai pas de voiture et j'ai pas envie d'en avoir, donc ça fait partie de mes critères. Après, moi, il y a deux choses. C'est que la question de, mes réflexions sur une nouvelle manière d'habiter, elles sont aussi liées à mes réflexions plus sur une possible reconversion professionnelle. Parce que, donc actuellement, je suis salariée, et donc plutôt dans le domaine de l'urbanisme, enfin ce que je disais en introduction. Mais je suis très très passionnée par les questions d'éducation, de pédagogie, et je rêve de pouvoir travailler avec un public jeune, d'enfants ou d'adolescentes. Et du coup, dans mon projet idéal, dans mon projet rêvé, il y a réussir à combiner cette question de vivre sur un lieu comme ça, donc un peu d'habitat partagé, et en même temps de potentiellement pouvoir créer un lieu d'accueil pour des jeunes. C'est encore un peu flou, c'est encore le début de mes réflexions, mais je suis assez motivée pour creuser en ce sens et développer l'idée d'un accueil à la ferme, donc pour des jeunes, soit de l'aide sociale à l'enfance, soit de la protection juridique et judiciaire, J'ai aussi dans un coin de ma tête l'idée que ça pourrait être potentiellement un lieu d'accueil pour des jeunes LGBT. Du coup, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais en tous les cas, c'est ce que j'essaye de mettre en petit à petit, déjà sur le papier, et ensuite de réfléchir à comment le mettre en œuvre dans les années à venir.
Trop bien. Est-ce que tu peux préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le woofing ?
Oui, bien sûr. En fait, je vais vraiment l'expliquer avec mes mots, mais le principe, moi, je suis passée par un site internet qui regroupe des personnes qui ont des fermes plutôt en agriculture raisonnée ou bio, mais pas forcément, et qui propose d'accueillir des personnes qui sont intéressées pour découvrir leur quotidien, finalement, dans la ferme. Et donc, ça met en relation les personnes propriétaires de fermes et agriculteurs, agricultrices et des personnes qui veulent avoir cette expérience-là sur un temps plus ou moins long.
Ouais, c'est ça. Enfin, oui, je suis d'accord. J'ai pas fait de woofing, donc c'est toi qui sais mieux. Ok. Bah, du coup, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que finalement, je trouve ça difficile de trouver une communauté, parce que enfin souvent les communautés qui marchent déjà, les écolieux qui marchent déjà, bah elles sont remplies, enfin il y a pas forcément de place pour des nouvelles personnes, et puis c'est un équilibre en fait, donc il faut que des personnes s'entendent. Et donc moi récemment je me disais peut-être aussi faire ma propre communauté en fait, c'est-à-dire prendre des personnes qui ont envie d'habiter avec moi ou avec qui j'ai déjà vécu et avec qui ça se passe bien. Par exemple, ma sœur, l'année dernière, j'ai vécu à Alençon en Normandie avec ma sœur en coloc, et je sais que c'est une personne avec qui je pourrais vivre, mais pareil, ce serait mieux si on avait chacune notre espace privé. Et bon, pour l'instant, elle a pas encore fini ses études, mais du coup, on se demande si on pourrait revivre ensemble dans un autre schéma, avec un autre schéma plus tard. Et moi, par contre, j'ai vraiment envie d'aller habiter également dans le sud-ouest, genre plutôt au Pays Basque. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller dans le sud parce que du coup, moi, j'ai besoin d'un abri surtout l'hiver, et j'ai vraiment envie de faire un potager et d'être au soleil et de pas avoir froid. Et je suis très frileuse, donc c'est fini le nord. Mais voilà ce que j'ai appris en t'écoutant. Enfin, j'ai appris plein de choses, mais déjà qu'il faut que je fasse du woofing. En fait, c'est hyper intéressant que tu dises que c'est un projet à long terme, parce qu'en fait moi je suis hyper pressée, parce que vu ma situation actuelle, c'est une urgence de partir, et du coup je m'étais dit bon, je vais pas partir cet hiver, c'est impossible de trouver une communauté, une tiny house en 2 mois, mais pour l'hiver prochain quoi, il faut absolument que j'ai trouvé mon terrain et tout. Et en fait c'est pas un truc qui va se faire aussi vite. C'est ou alors faudrait que je fasse tout ça, ces recherches à temps plein en ce moment quoi, enfin ce serait vraiment difficile, donc on verra quand est-ce que je trouverai la formule parfaite. Mais parce qu'en fait je me dis au final, est-ce que je peux pas genre louer un terrain et mettre ma tiny house dessus, et tant pis si je suis seule, mais j'ai pas envie d'être seule, enfin voilà. Et puis voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, avec qui on habite, moi c'est aussi une question d'habiter avec des femmes ou des personnes non binaires ou des personnes trans. Enfin, c'est pas possible pour moi de vivre avec des mecs cis, et les communautés de personnes queer ou de meufs lesbiennes, enfin ça court pas les rues non plus, donc voilà, c'est compliqué.
Il y a une page Facebook que je sais pas si tu connais, qui s'appelle Ruralité Queer, je crois, ruralité au pluriel, qui je crois qu'elle est assez récente d'ailleurs, enfin moi je suis dessus depuis pas longtemps en tous les cas, et qui vraiment pour le coup traite de ces sujets-là, et en gros met en relation des personnes queer qui ont des alors soit qui sont déjà installées dans des fermes ou dans des lieux en tous les cas à la campagne, enfin dans le milieu rural comme son nom l'indique, et qui sont à la recherche pour le coup d'accueillir de nouvelles personnes, voilà, soit des personnes qui cherchent, sont à la recherche d'un lieu.
Merci beaucoup, je mettrai en note du podcast les références des sites pour faire du woofing et de cette page Facebook que je vais essayer de... Enfin, c'est un groupe ou une page?
Un groupe. C'est un groupe, oui, okay. Exact, c'est un groupe.
Je mettrai la référence. Oui, je note. Merci beaucoup, Charlène. Alors, on a juste ébauché, enfin, on a juste commencé à réfléchir. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, on ne peut pas non plus tout dire. Et voilà, il y a plein d'autres choses à ajouter. Et puis, on est jeunes, donc je pense que dans 10-20 ans, on aura... d'autres expériences, mais voilà, c'est pour ouvrir à la réflexion. Je suis sûre que les auditoristes ont appris des choses ou ont des réflexions aussi à apporter. Pour finir, je voulais juste dire aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on se connaît, Charlène?
Oui, alors on s'est... Donc c'est la première fois qu'on se voyait aujourd'hui, mais moi j'écoutais tes deux podcasts, Marie sans filtre et Sologamie, depuis quelques temps, et je te suis sur Instagram aussi, Et en fait, ça m'est venu, bon, Sologamy, donc j'écoutais Sologamy, et à la fin de chaque épisode, tu lances un petit appel en disant si vous avez envie de participer, en gros. Et du coup, plusieurs fois, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Puis il y a une fois où je me suis lancée, et du coup, je t'ai écrit un petit mail en me présentant, et voilà.
Trop bien, je suis trop contente. Et finalement, il y a aussi la question caisse de résonance. Donc, est-ce que tu veux parler d'un projet que tu as, de quelque chose que tu as fait que tu veux mettre en avant, ou est-ce que tu veux attirer l'attention des auditeuristes de ce Sologamy sur quelque chose, ou est-ce que tu veux conseiller une œuvre ou un endroit ou je ne sais quoi, ou tu as déjà conseillé la page Facebook?
Oui, alors un endroit, je pense à un endroit du coup. Qui est encore un petit peu en gestation, mais qui va bientôt ouvrir à Saint-Rémy-les-Chevreuses, juste à côté de la gare. En fait, c'est une personne qui est devenue une amie qui est en train de créer. Donc, en fait, c'est une société coopérative pour créer un lieu d'accueil, un lieu d'insertion sociale pour l'accueil notamment des personnes victimes d'inceste. Et pour aller au-delà de la question de l'inceste. Et donc, c'est un lieu qui, actuellement, a déjà un potager participatif, qui va avoir un café participatif, qui va proposer donc de l'accueil des personnes concernées, mais aussi de l'accueil de tout le monde, et des formations, des ateliers, tout ça sur un modèle... l'essence même de ce projet, c'est proposer un projet coopératif pour justement redonner et reprendre du pouvoir d'agir et reprendre un peu une revanche sur le système hiérarchique et patriarcal, et notamment le système incestuel, du coup. Voilà.
Et est-ce que c'est un nom? Qu'est-ce qu'on peut donner comme indication aux personnes que ça intéresse?
Absolument, j'ai oublié l'essentiel. Ça s'appelle « Force de vivre ». Et donc, il y a une page Facebook et un site internet. Et d'ici, normalement, le printemps 2022, ça devrait être ouvert. Et voilà.
Ok, bah, je mettrai les références. Trop intéressant. Merci beaucoup. On arrête de discuter ici. Chers auditorices, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous aussi, vous vivez seul ou pas? Est-ce que vous vivez comme moi chez des parents, dans votre famille, avec des amis, avec des colocataires, avec des animaux? Est-ce que vous pensez que c'est un luxe de discuter d'habitat et d'avoir le choix? Est-ce que vous avez un rêve? Quel est ce rêve? Est-ce que c'est la communauté? Quelle communauté? Écrivez-moi pour me répondre, pour me donner vos pistes. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous avez aimé ce 16e épisode de la saison 2 et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je remercie Oli Gougu qui a écrit... qui a décrit Sologamy comme un podcast qui sort des sentiers battus, vraiment top, le 4 mai 2021 sur Apple Podcast. Merci Oli Gougu pour ton commentaire et ton soutien. Chers auditoristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches, participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 1 euro, 2 euros ou 5 euros par mois, vous soutenez la production de mes épisodes, que ce soit de Sologamy ou de Marie sans filtre. Aujourd'hui, je remercie Elsa, Pierre, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons réguliers. Je mets aussi le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire à cette newsletter dans les notes du podcast. L'inscription est gratuite. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Je viens de lancer sa saison 3. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode, le premier mardi du mois de janvier, avec un ou une invitée différente. Au revoir Charlène.
Au revoir Marie. Just like the water falling from the sky.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.